voit dans votre communiqué du 11 juillet, vous avez fait donc des analyses par spectrométrie de masse et vous avez découvert la présence d'atomes de masse de 236 et même d'uranium-235, me semble-t-il. Alors, est-ce que. Expliquez-nous un petit peu la dangerosité de ce type d'uranium par rapport à un uranium naturel.
Alors d'abord, il faudrait que je corrige un petit peu ce que vous venez de dire. Donc, notre laboratoire a fait des prélèvements dans la gaffière, donc le cours d'eau, avant qu'il rentre dans le site et ensuite juste à sa sortie. Alors ça, c'était 48 heures après le rejet. Donc ce n'est pas immédiat, mais on voulait vérifier s'il y avait encore de la radioactivité qui sortait ou plus. Donc on a trouvé un niveau très faible, normal en amont, c'est-à-dire en uranium, il y avait 1,1 microgramme par litre. Et en sortie, on était à 6,6. Ça veut dire qu'il y avait, alors ce n'est pas des quantités très élevées, ce n'est pas du tout l'incident, mais ça montrait que 48 heures après, il y avait toujours de l'uranium qui sortait du site et qui allait dans les ruisseaux, alors que c'est strictement interdit. Alors j'aurais précisé que nous avons fait les prélèvements, nous allions faire les analyses par spectrométrie gamma, mais comme les niveaux étaient faibles, on a préféré confier l'analyse au laboratoire départemental d'analyse de la Drôme, qu'on connaît depuis longtemps, avec qui on collabore de temps en temps. Et donc ils ont fait ce qu'on appelle une spectrométrie de masse. Et eux, dans les résultats, nous ont dit qu'ils voyaient un élément de masse 236, donc ça c'est vrai, mais ils ne pouvaient pas conclure que c'était de l'uranium 236, mais il y avait une suspicion. Et donc nous, ça nous a permis de redemander ce qu'on n'avait toujours pas à l'époque, il a fallu, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, attendre une semaine. On voulait absolument savoir quelle était la composition isotopique, parce que la Socatrie travaille sur de l'uranium dit naturel ou faiblement enrichi, jusqu'à 5%, mais travaille aussi sur ce qu'on appelle l'uranium de retraitement, c'est-à-dire de l'uranium qui vient des usines de retraitement de La Hague, dans lequel on peut trouver des produits artificiels. Donc de l'uranium artificiel, c'est l'uranium 236 et l'uranium 232, mais aussi du plutonium ou des produits de fission. Donc du coup, alors déjà, l'uranium dit naturel est dangereux, hein. Il ne faut pas penser que c'est parce que c'est naturel, c'est pas dangereux, parce que tout l'uranium dont on parle actuellement, même quand on dit naturel, c'est pas du tout celui qu'on trouve dans la nature, parce que c'est un uranium qui a été extrait dans le minerai, qui a été extrait par des procédés chimiques purifiés et où on a, in fine, dans le process industriel, de l'uranium de qualité nucléaire, c'est-à-dire c'est 100% d'uranium. Ça, vous n'en avez jamais dans l'environnement. Donc même quand on dit uranium naturel au Tricastin, c'est de l'uranium naturel, de l'uranium, pardon, nucléaire purifié à 100% d'uranium. Donc celui-là est déjà très dangereux. Mais en plus, on a de l'uranium plus dangereux encore, c'est ce qu'on appelle l'uranium de retraitement, parce qu'en plus des produits radioactifs naturels, il y a ce que je vous dis, des transuraniens, c'est-à-dire du plutonium, des émetteurs alpha très toxiques. Et vous avez aussi de l'uranium 232 et 236 qui est plus irradiant. Et vous pouvez avoir aussi des produits de fission.
Ils vont décider une enquête épidémiologique, c'est pas trop tôt. Et en absence de cette enquête, on a entendu dans cette conférence un démenti formel sur l'impact sanitaire de ce genre d'incident. Alors, sur quoi ça se base et est-ce que vous avez, vous, une autre idée de la nocivité de ces fuites?
Ah oui, alors j'avoue que j'étais presque en colère là quand. Alors, déjà, on donne la parole aux responsables d'Areva ANC, c'est-à-dire l'exploitant, pour déterminer la dangerosité, l'impact sanitaire. Alors moi, c'est ça, bon, voilà, ça, j'ai du mal à l'accepter. Alors évidemment, cette personne dit qu'il n'y a pas d'impact et explique qu'ils ont fait les calculs de dose. Donc c'est l'exploitant qui fait les calculs de dose et qui conclut que la dose est inférieure aux limites. Sauf qu'il a fait les calculs pour un adulte, alors que nous, on dit depuis. Alors c'est pas qu'on est en train de dire que c'est très bien pour les adultes de consommer l'eau contaminée qui est en aval du site. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que donc c'est pas à recommander pour les adultes, mais par contre pour les enfants et spécialement les enfants en bas âge, au niveau de contamination qu'il y a dans certains forages, il faut absolument interdire la consommation. Alors pas pour l'interdire pour boire un verre d'eau par-ci par-là, mais quand c'est comme c'est le cas pour beaucoup de familles de l'eau qui sert d'alimentation de base, j'imaginais des familles avec carrément des enfants, des bébés, où on prépare le biberon, en plus les gens, on le fait bouillir, donc on pense qu'il n'y a plus rien, alors que la radioactivité, elle reste complètement, même après l'ébullition, évidemment, malheureusement, je dirais, qu'on ait pu utiliser en continu cette eau, voilà, pour vraiment l'alimentation des jeunes enfants. Donc là, le risque pour les tout jeunes enfants par rapport à l'uranium, d'après les calculs de doses officiels, ce n'est pas des risques majeurs, mais c'est des risques qui sont vraiment au-delà du négligeable. Donc il y a obligation de les abaisser au maximum qu'il est possible d'atteindre. Et là, le maximum, c'est facile de l'atteindre. Il n'y a qu'à interdire l'eau et puis, évidemment, dans un deuxième temps, empêcher la pollution. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut simplement interdire l'utilisation de l'environnement. Dans un premier temps, on interdit l'utilisation de l'environnement et après, on enlève les pollutions parce que c'est sur ça qu'il faut agir. Donc, au niveau de la dangerosité, je dirais, on a l'impression qu'on se retrouve là encore au moment de Tchernobyl, puisque ceux qui nous avaient le plus... Je crois vraiment le plus choqué et mis en colère au moment de la contamination par Tchernobyl en France, c'est que les autorités donc, ont menti sur les dépôts, ont menti sur l'impact sanitaire et surtout ont triché sur les calculs, puisque là encore, à cette époque-là, en 1986, ils ne faisaient les calculs que pour les adultes. Et du coup, pour tout ce qui était impact sur la thyroïde, avec des risques de cancer de la thyroïde à la clé, les enfants, pour une quantité égale incorporée, ils avaient des doses et du coup des risques de cancer 10 fois plus élevés que les adultes. Donc il y avait vraiment en France en 86 des précautions à prendre pour protéger les enfants. Et là on se trouve en 2008, on a encore l'exploitant qui nous parle de calcul par rapport aux adultes. Et quand on le titille là-dessus, il nous dit « Ah mais moi, de toute façon, je fais ces calculs pour les adultes parce que c'est ce que la réglementation m'impose. » Alors je ne suis pas allée vérifier, mais de deux choses l'une. Ou il a raison, et à ce moment-là, d'urgence, il faut changer la réglementation parce qu'on est en plein scandale. Ou alors, une fois de plus, comme on l'a vu depuis 15 jours, c'est que ça, il est encore en train de mentir pour diminuer l'impact de son site.
Enfants et femmes enceintes ou allaitantes, hein, il semblerait voilà. Qu'elles soient particulièrement fragilisées par ce genre de contamination. Voilà, mais alors, il y a une enquête.
Juste pour comprendre pour l'uranium, pourquoi on parle notamment des femmes enceintes, c'est que l'uranium, quand il est incorporé, il va passer la barrière placentaire. C'est-à-dire que si une femme absorbe de l'uranium alors qu'elle est enceinte, ça va malheureusement partir sur le fœtus. Du coup, oui, il faut protéger. La deuxième chose, l'uranium va se fixer de façon préférentielle sur le squelette. Donc vous imaginez bien, pour un enfant qui est en plein développement, l'organisme a prendre ça comme il va l'incorporer de façon plus durable, il va y avoir une fixation plus intense sur le squelette d'un enfant que sur celui d'un adulte parce qu'il est en plein développement. Et la troisième chose sur laquelle il y a des études qui sont en cours, c'est que l'uranium passe aussi ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire qu'il rentre dans le cerveau et les études en cours montrent qu'il se fixe beaucoup dans l'hypothalamus. Et du coup, il y a des recherches en cours, alors on n'a pas encore les résultats, pour savoir s'il peut y avoir un lien avec la maladie d'Alzheimer. Et en tout cas, à l'étranger, notamment en Suède, il y a beaucoup de documents qui sont sortis en disant « Attention, la norme OMS, elle est peut-être fixée trop haute parce qu'il y a beaucoup d'interrogations donc sur ce que je viens de vous dire, mais aussi sans parler de la radioactivité, sur le côté chimique de l'uranium. Vous savez que c'est un métal lourd, donc c'est comme les autres métaux lourds, il est très toxique. Et ces documents des Suédois insistaient sur le fait que, en ce qui concerne les métaux lourds et spécialement l'uranium, on ne sait pratiquement rien de ce qui se passe pour les enfants en bas âge, c'est-à-dire du nouveau-né jusqu'à 1 ou 2 ans. Donc je dirais, soyons très très prudents.
D'autant que, bon, si je me souviens bien, dans un ouvrage, le docteur Belpom dit qu'effectivement, ça risque d'avoir des effets, enfin, des effets, on a constaté, des effets mutagènes. Et puis il y a cette étude en Allemagne qui établit qu'il y a 2 fois plus de leucémie, notamment chez les enfants et les personnes âgées, autour des centrales. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Est-ce que c'est fiable, ce genre d'étude ?
Alors effectivement, on a reçu cette étude. Donc ça montre non seulement qu'il y a un surcroît de leucémie chez les enfants autour des centrales nucléaires, mais en plus que l'incidence, le taux d'apparition de ces leucémies augmente au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'installation. Donc ça pose beaucoup de questions. Donc le problème, c'est qu'en France, si vous voulez, alors déjà en France, on a des carences très très importantes au niveau de l'impact environnemental des installations, c'est-à-dire ce qu'elles rejettent, et on le voit encore. Alors, notre ministre de l'Environnement annonce qu'on va aller contrôler toutes les nappes phréatiques sous les centrales. Ça fait 30 ou 40 ans que c'est soi-disant sous contrôle, etc. Bon, alors passons les détails de tout ce qu'on avait signalé avant et qui n'a pas été fait. Mais alors, déjà, sur l'environnement, il y a beaucoup à dire, mais sur l'impact sanitaire, alors là, je dirais que vraiment, l'État s'est donné les moyens en France de ne rien voir de l'impact sanitaire des centrales. C'est-à-dire que tous les outils, parce que c'est pas simple de voir l'impact sanitaire des rejets radioactifs, il y a beaucoup de produits cancérigènes, pas que les rayonnements ionisants. Les enquêtes épidémiologiques, c'est très difficile. Donc pour pouvoir les réaliser, il faut avoir des outils. parmi les outils, il faut avoir par exemple des registres de cancer, et spécialement des registres de cancer pour les enfants, etc. Tout ça, en France, on a décidé, alors je pense d'ailleurs que ce n'est pas que pour le nucléaire, mais c'est particulièrement vrai dans le nucléaire, de ne pas avoir ces outils. Du coup, en France, régulièrement, on a des études qui montrent qu'il n'y a rien. Mais le problème, c'est que ces études, surtout, elles disent on ne voit rien de significatif ou en épidémiologie. Vous savez que pour dire qu'on voit quelque chose, il faut qu'on puisse démontrer l'impact et la relation de corrélation avec un taux de certitude de plus de 95%. Donc il faut pouvoir affirmer à 95% qu'on a une augmentation qui est imputable à l'installation et à ces rejets. Et ça, c'est pratiquement impossible. Si on inversait la charge de la preuve, ce serait eux qui diraient « Écoutez, nous, on est désolés, on ne peut pas prouver que les cancers ne viennent pas de là. » Mais comme la charge de la preuve est de l'autre côté, donc il y a une espèce de désinformation sur l'impact sanitaire. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on n'a toujours pas, en 2008, les outils qui permettraient de déterminer l'impact sanitaire de notre parc électronucléaire et de toutes nos installations nucléaires.
Admettons qu'ils entreprennent cette enquête. Qui va la réaliser ? C'est toujours la même chose. Par exemple, dans le problème de l'amiante, dans le problème des OGM, on voit apparaître des scientifiques qui sont en fait des scientifiques croupions au service des pollueurs. Est-ce que ça va être le cas ?
Voilà, ça c'est très intéressant parce que, justement, c'est la grosse question. À la fois, pour qui va la faire et quelle méthodologie ? Donc là, il y a une possibilité parce que ce qui a été annoncé... Il y a deux études là qui sont annoncées. Là où il y a eu un accord qui a été donné il y a 15 jours par le président du Conseil général, c'est sur une étude préliminaire de 1 ou 2 ans qui ne va pas répondre à la question. Après, cette étude préliminaire doit servir de base pour en faire une autre, mais qui va durer sur 5 ou 6 ans, qui va demander des équipes pluridisciplinaires avec une méthodologie qui est intéressante puisque c'est de documenter chaque cas de cancer. Quelqu'un a un cancer, on va rechercher à quel polluant cancérigène cette personne a été exposée, que ce soit dans son environnement ou dans son travail au niveau professionnel. Et cette méthodologie, c'est celle qui a été mise en place sur la région parisienne par quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Madame Annie Thébaumoni, qui est chercheure à l'INSERM, et qui a mis en place, alors malgré mais des embûches, elle continue à en baver sur le terrain, prodigieuse, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui n'ont pas intérêt à ce que ça aboutisse, mais ils sont en train de commencer à avoir des résultats très intéressants sur la région parisienne. Et l'enjeu, ce serait de faire une étude du même modèle sur Tricastin. Alors, sur Tricastin, je m'entends, c'est-à-dire sur la Drôme, parce que si vous prenez trop peu de gens, vous ne trouverez rien. Parce qu'en épidémiologie, en recherche comme ça, il faut avoir un nombre significatif de cas, sinon c'est voué à l'échec. Donc, il faut que ce soit suffisamment représentatif et que ce soit bien cette méthodologie. Sur la durée 5 ans, 6 ans, il faut trouver les moyens financiers, il faut qu'il y ait les équipes, etc. Donc, il y a un vrai enjeu, mais pour le moment, on n'a aucune garantie que c'est ça qui va se faire. Parce qu'il faut vraiment des gens déterminés, parce que ça serait peut-être intéressant que vous fassiez une interview avec Madame Thébaumoni qui pourrait vous expliquer tous les inspecteurs du travail ou autres, les problèmes qu'ils ont quand ils vont dans le milieu professionnel pour essayer d'avoir des infos sur les expositions des travailleurs.